Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission Et si on en parlait, en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et aujourd'hui, dans l'émission, nous avons décidé d'aborder les sujets qui font l'actualité. C'est parfois le cas dans l'émission, pas toujours, mais c'est vrai qu'il nous a semblé important de revenir sur les débats qui secouent notre pays depuis bien longtemps en réalité, mais en particulier depuis l'attentat de Conflans et l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty. On a à nouveau des prises de position sur la laïcité, la liberté d'expression, l'état de droit, comment notre pays vit-il, traverse-t-il ce moment? Pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Belir Nabli. Bonjour Belir. Qui est donc juriste et essayiste, auteur de nombreux ouvrages et également cofondateur du site Chronique, qui est un site qui contribue au débat public, en particulier sur les sujets internationaux ou de politique. Alors, Belir, pour démarrer, je voudrais vous faire réagir parce que vous avez, vous aussi, pris vos responsabilités en prenant votre place dans ces débats et notamment en regrettant, en déplorant que l'Union nationale, qui avait été, en tout cas la position du président de la République, qui a fait plusieurs discours, mais notamment le discours d'hommage à la Sorbonne, qui a été un moment très fort d'unité nationale, eh bien malheureusement ce moment-là a été un petit peu, je dirais, sapé par d'autres prises de position, y compris d'ailleurs au sein du gouvernement. On aura l'occasion d'y revenir. Et vous avez considéré que la classe politique française n'a pas été à la hauteur de la situation.
Oui, en effet, elle n'a pas été à la hauteur de l'émotion nationale et de l'unité de la nation française face à un événement qui a suscité un émoi et une émotion profonde. Face à cette émotion réelle qui a traversé l'ensemble de la société, on a eu rapidement affaire à des prises d'opposition qui, au contraire, ont nourri finalement la division en tentant de fustiger notamment, non pas la communauté musulmane, mais en réalité des ennemis ou des adversaires politiques qui seraient des alliés objectifs des islamistes, notamment à travers l'expression qui est devenue une insulte publique ou presque d'islamo-gauchiste. Ce que je trouve intéressant, c'est pas seulement le fait que d'anciens responsables politiques comme Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve qui viennent du Parti Socialiste l'un et l'autre, mais également le monsieur Blanquer, qui a carrément fustigé l'université et les chercheurs, mobilise de telles expressions. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur de la responsabilité politique qui consiste à faire front et à faire bloc, puisque l'une des stratégies des djihadistes consiste précisément à nourrir la division au sein de la communauté nationale. Et que face à cette stratégie assez explicite, certains cèdent à la panique, ils cèdent aussi à la facilité et à la paresse intellectuelle et politique. Et c'est en ce sens que ceux qui sont officiellement des responsabilités politiques font preuve parfois d'irresponsabilité politique.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une part de nombrilisme très franco-français? Parce que le djihadisme est un phénomène international. Il a commis les mouvements qui s'inspirent de cette idéologie et de l'interprétation littéraliste ou rigoriste des textes sacrés. Elle fait des victimes dans tous les pays, et d'ailleurs peut-être même plus dans les pays musulmans que en Occident ou sur les autres continents. Et pourtant, quand on écoute justement les prises de position, même vous l'avez rappelé, d'anciens ministres, anciens premiers ministres, on a l'impression qu'effectivement ces sujets-là sont abordés uniquement à l'aune de positionnement, de guerre de tranchées, de règlement de compte politicien, comme si effectivement la France finalement n'était pas dans un environnement international et que on n'avait pas à affronter un ennemi qui n'est pas seulement un ennemi de la France, mais qui est un ennemi en fait, des musulmans eux-mêmes, mais aussi de toutes les démocraties et de toutes celles et ceux qui portent des valeurs de liberté et de tolérance.
Oui, vous avez raison. En fait, il y a deux aspects sur ce plan. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, la montée en puissance de l'islamisme, c'est un élément géopolitique qui remonte, ou dont les racines finalement contemporaines remontent à la révolution islamique iranienne. Je veux dire par là que c'est en réaction en particulier à la révolution chiite de 79 que le régime wahhabite saoudien s'est mobilisé pour tenter de diffuser et d'accélérer la diffusion de sa propre idéologie rigoriste et fondamentaliste pour contrer la révolution islamique iranienne. Et donc nous avons affaire dans le monde musulman à finalement la double montée du discours fondamentaliste sur le plan religieux qui a donné naissance à des qui s'est traduit politiquement également par soit l'arrivée au pouvoir, soit la naissance de groupuscules soit djihadistes, soit politiques, tentant de contester un basculement du monde arabo-musulman vers la modernité. Et c'est dans ce contexte-là qui a pu s'accompagner de la naissance de créatures comme Al-Qaïda ou Daesh, que finalement la violence politique que représente le djihadisme concerne effectivement ou a pour victime première les populations musulmanes des pays du Maghreb, mais aussi du Moyen-Orient et du Golfe. Donc vous avez cette réalité-là, qui est à la fois géopolitique et humaine, et de l'autre, vous avez malgré tout une spécificité française. Il y a en effet une cristallisation, malgré tout, autour de la France, une fixation des djihadistes sur la France, notamment à cause la signification et la cristallisation même du débat politique franco-français autour de la question de la laïcité qui attire l'attention du monde arabo-musulman sur sur la vie politique française et sur précisément la manière dont ce débat sur la laïcité s'est cristallisé sur la visibilité des musulmans en France. Et ce, depuis la fin des années 80, et l'irruption du voile à l'école et sa visibilité dans l'espace public. À partir de là, effectivement, il y a un vrai face-à-face entre les mouvances salafo-djihadistes d'un côté et les tenants d'une république rigide, tenant à une application de plus en plus extensive de la laïcité, de l'autre. Et, on a malgré tout face à ces deux blocs des perdants que sont finalement déjà les citoyens français en général et les Français de culture musulmane en particulier puisque se retrouvent tiraillés entre finalement deux discours extrémistes, même s'il faut le rappeler, seuls pour l'instant les djihadistes sont passés à l'acte criminel et pour cette raison, il faut rester lucide et bien identifier ses ennemis politiques.
Alors, est-ce que vous diriez finalement que la France est un peu plus la cible dans les discours et aussi malheureusement dans les passages à l'acte violent de cet islam radical et de ces mouvements djihadistes, justement parce qu'il y a une conception très française de la laïcité qui n'est pas... qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon et qui est même en Europe est assez singulière et nous singularise effectivement de par cette approche qui peut aller jusqu'à effectivement considérer que la laïcité est un moyen de contenir la religion et même parfois de la combattre.
Il est clair qu'on est il y a deux réalités. Du point de vue franco-français, il y a une construction d'identité nationale ou nationale républicaine autour notamment de la laïcité. Et donc il y a là quelque chose d'existentiel et de très affectif dans notre relation à la laïcité. Et dans le regard de l'autre, c'est-à-dire à l'échelle internationale, on est également perçu comme le pays de la laïcité stricte, d'une laïcité extensive. Sauf que la réalité est plus, en tout cas la réalité de notre état de droit, donc la réalité de la réalité juridique en France est plus nuancée. La laïcité en France, c'est d'abord un principe de séparation entre l'État et les Églises, c'est-à-dire l'interdiction de l'immixtion ou de l'ingérence respective de l'État dans les affaires religieuses et inversement, c'est-à-dire des Églises dans les affaires de l'État. La laïcité, c'est aussi, et dans le prolongement de ce principe de séparation consacré par la loi de 1905, c'est aussi donc la garantie de la liberté de conscience et de religion. Donc, c'est aussi un principe libéral. À telle enseigne que, faut-il le rappeler, ce principe de laïcité, en France, en droit français, s'applique en particulier et tout spécifiquement aux agents de l'État. C'est-à-dire que c'est un principe de neutralité religieuse qui concerne l'État. Ce sont les représentants de l'État qui sont soumis au principe non-immixtion, de neutralité religieuse. A contrario, dans l'espace public, c'est-à-dire sur la voie publique, dans la société, les individus eux-mêmes, dans leur vie courante, sont libres d'afficher leurs convictions religieuses, s'ils en ont, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public. Hein. Et donc, ce à quoi on assiste, ce n'est pas, en vérité, cette conception-là, conception juridique de la laïcité qui pose problème. C'est la dynamique historique et idéologique depuis maintenant près de 3 décennies, une volonté d'un certain nombre d'acteurs publics d'étendre le principe de neutralité religieuse à l'espace public, notamment, et au-delà, en tous les cas, de l'État. Puisque, je le répète, le principe de laïcité ou de neutralité religieuse s'applique d'abord à l'État et donc à ses agents, et aux agents publics en général. Aujourd'hui, on a notamment, avec la loi de 2004, une première illustration de l'extension du principe de neutralité religieuse, notamment avec son application aux élèves des établissements scolaires, du primaire, du secondaire, ce qui n'était pas prévu à la base par la loi de 1905. D'autres aujourd'hui voudraient étendre ce principe de neutralité religieuse à d'autres usagers du service public, notamment ceux de l'enseignement supérieur, voire, pourquoi pas, sur la voie publique, qu'on ne puisse plus afficher du tout tout signe distinctif ou ostentatoire sur la voie publique. Bref, on vit une séquence historique en France où certains sont motivés par la volonté d'étendre finalement la neutralité religieuse, sauf que concrètement, on perçoit bien dans le discours qui est diffusé que ce discours-là est motivé par la volonté de neutraliser la visibilité de la présence islamique en France, parce qu'il y a effectivement un problème à la fois psychologique et politique, la difficulté à admettre pour certains l'évolution et le changement du visage social et sociologique de la France, et que le fait que ce changement de visage se traduise ou se manifeste notamment dans l'espace public est difficilement acceptable, même si cette position est souvent prolongée par un autre discours qui est celui de la lutte contre l'islamisme. Voilà. Sauf
oui, qui est toujours le...
À l'échelle internationale, ce discours, il est incontestablement perçu comme un discours souvent discriminatoire à l'égard des musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est que cette perception-là, elle n'est pas propre au monde musulman. Elle est également diffusée dans le monde anglo-saxon. Je vous renvoie à un certain nombre d'articles publiés par le New York Times ou par le Washington Post qui soulignent finalement le climat délétère qui règne depuis des années en France et que subissent les Français de confession musulmane ou de culture musulmane.
Et que subissent finalement tous nos compatriotes qui assistent à ces joutes, à ces échanges parfois d'une grande virulence, hein, parce que très récemment on a demandé, si je puis dire, à avoir la peau de Jean-Louis Bianco, parce qu'on trouve que l'Observatoire de la laïcité n'est pas justement assez offensif, et que finalement il y a une partie de du discours politique qui tend à indiquer qu'il y aurait une laïcité en danger, parce qu'il y a un islam radical qui progresse, qui progresserait dans certains territoires, qui progresserait à l'école, qui progresserait à l'université, c'est Jean-Michel Blanquer qui le dit, et que finalement, face à cela, la seule attitude, c'est de ne pas avoir les mains qui tremblent, d'aller à la confrontation, et que toutes celles et ceux qui ne partagent pas, on va dire, les combats de Jean-Michel Blanquer, de Manuel Valls et de Darmanin et de beaucoup d'autres, eh bien, ceux-là sont au mieux des lâches et au pire des complices.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le cas de l'Observatoire de la laïcité, qui est dirigé par Jean-Louis Bianco, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République à l'époque de François Mitterrand, donc loin de la figure d'un quelconque islamo-gauchisme fantasmé par certains, et un observatoire incarné également par son rapporteur public, Nicolas Cadenne, donc une institution républicaine qui se retrouve piégée par précisément ce discours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça renvoie à ce que je disais, à savoir que l'observatoire essaye de diffuser précisément la laïcité telle qu'elle est entendue par le droit français, c'est-à-dire un principe de neutralité essentiellement applicable aux agents publics et qui peut s'appliquer également dans des établissements publics, etc. Donc il y a tout un travail de pédagogie sur le terrain réalisé par l'Observatoire de la laïcité pour expliquer la signification du principe et rendre possible au mieux son respect, notamment dans les collectivités territoriales. Et puis de l'autre, vous avez au contraire tout un courant politique, notamment incarné par le Printemps républicain et ses bras armés, plus ou moins médiatiques, qui tentent d'imposer une autre conception qui n'est pas fondée sur le droit, mais qui est fondée par une motivation idéologique et qui tend finalement à vouloir étendre la neutralité religieuse dans l'espace public à travers un discours officiel de lutte contre l'islamisme.
Alors, on a entendu aussi Alain Finkielkraut qui a tenu des propos très durs, hein, en désignant des coupables. Hein. Il a cité Daniel Obolo, La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Todd. On voit quand même qu'il y a aujourd'hui un vrai durcissement, une vraie confrontation. Et finalement, est-ce que la lutte contre l'islam radical, elle passe uniquement par ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire le rappel de la loi, des principes de la loi, leur application, ou est-ce comme l'appel de leur vœu à un certain nombre d'hommes politiques ou d'intellectuels, il faut passer à l'offensive?
Oui, l'offensive, bien sûr, parce que au regard de la série d'attentats subis depuis maintenant 2015 au minimum, il y a effectivement sensation d'être sous la menace permanente du terrorisme islamique. Mais en réalité, l'offensive, elle, que je conçois, elle ne peut pas prendre seulement la forme d'un discours offensif sur la laïcité. L'offensive, elle doit consister aussi, d'abord et avant tout, d'après moi, dans la volonté de la République d'être à la hauteur de ses engagements vis-à-vis de l'ensemble de ses citoyens et de l'ensemble de ses territoires. Je veux dire par là que si il existe une avancée de la présence du discours islamiste incarné par certains acteurs ancrés dans des quartiers populaires, c'est aussi parce que l'État a abandonné ces territoires en admettant, en actant le retrait de services publics de toute nature et en ne faisant pas obstacle au processus implacable de la ghettoisation. Donc à partir de là, effectivement, il y a, à travers la montée du discours islamiste tel qu'il peut être incarné, eh bien aussi un échec pour la République et une mise en l'engagement de sa propre responsabilité. Alors on n'est pas forcément amené à faire montre d'une forme de fatalisme. Il y a là, au contraire, l'appel à faire face et à réinvestir précisément les quartiers, pas seulement à travers la figure du policier, mais également à travers les différents visages du service public.
Eh bien, Bedir Knabli, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur du site Chronique, vous êtes juriste et essayiste. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions dans l'émission « Et si on en parlait ?» Et on se retrouvera, nous, dans la seconde partie de l'émission avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, pour eh bien continuer ce débat. Merci, merci Bélire, et à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la laïcité, au débat sur la liberté d'expression, sur les lendemains, les décisions à prendre au lendemain d'un nouvel attentat djihadiste qui a vu un professeur d'histoire, Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue, merci d'être avec nous. On a vu en fait en l'espace de quelques jours des séquences empreintes d'une grande émotion, mais en même temps d'une volonté de faire front face à l'ennemi commun. C'était le discours du président de la République, en particulier à la Sorbonne, l'hommage à Samuel Paty. Et puis en amont et en aval de ce discours, des prises de position plus dissonantes, on va dire, plus polémiques, et qui cherchent à pointer du doigt tel ou tel acteur politique, telle ou telle association, et finalement à rechercher bien des complices ou des coupables de cet attentat, ou du contexte qui a pu conduire à la commission de cet attentat.
Oui, c'est vrai qu'on a eu un président de la République qui a essayé finalement de mobiliser autour de l'émotion suscitée par cet attentat, qui a tenu un discours qui voulait rappeler les principes fondamentaux de la République, notamment celui, entre autres, de la liberté d'expression, mais que très vite, les controverses, les débats, les polémiques sont venus s'agréger à ce moment d'unité nationale. Il y a vraisemblablement une raison, c'est que finalement les débats que suscitent les questions, que sont les questions de la laïcité, qui sont les questions de la liberté d'expression, qui sont les questions du rapport de la religion et du politique, sont des débats qui, en France, d'ailleurs historiquement, mais encore plus récemment, sont en train de passion, vous savez, ces fameuses passions françaises qu'un historien britannique, Théodore Zeldin, a en son temps essayé d'explorer dans un ouvrage important, et que les lignes de fracture qui parcourent le champ politique et la sensibilité collective sont très vite réapparues une fois passé le moment de commémoration et de célébration. Finalement, dans une séquence de ce type, il y a toujours, il y a souvent trois phases. Une phase qui est la phase qui précède l'événement, en l'occurrence, qui est une phase, en règle générale, très souvent sujette à des confrontations. La phase de l'événement qui réinstaure une espèce de cohésion nationale, mais qui ne dure en fait que le temps
d'une commémoration.
Et très vite, ensuite, Les divisions et les fractures, et voire les blessures parfois, de la société réapparaissent. Je dirais que sur un plan, j'allais dire, factuel et quasiment formel, on a là un processus qui, on peut le regretter, mais en tout cas, est certainement assez, j'allais dire, banal pour appréhender ce type de situation.
Alors, on reviendra sur le débat franco-français et ces lignes de fracture dont vous dessinez les contours, qui reflètent aussi parfois des débats dans la société même. C'est pas seulement des débats entre acteurs politiques, mais avec Bedir Knabli, on a également abordé une dimension, c'est que la France a une conception particulière de la laïcité, qui la met souvent en fait en première ligne, notamment vis-à-vis des conceptions de l'islam radical ou du djihadisme, pour qui elle est une cible, peut-être un peu plus que d'autres, mais la France n'est pas non plus le seul pays ciblé par le terrorisme djihadiste et par l'islamisme radical. Dans le monde musulman, il y a énormément de victimes par attentat, et il y a eu d'autres pays aussi en Europe, et même les États-Unis qui ont été frappés. Et on a l'impression que finalement la France se focalise de manière un peu nombriliste sur ces problématiques domestiques, alors qu'en réalité, la confrontation, elle est à l'échelle de la planète entière, entre le djihadisme, l'islam radical et ses ennemis qu'il essaye de frapper un peu partout sur la planète.
Oui, vous avez raison de rappeler que la scène de cette bataille, d'une certaine manière, elle est internationale. Elle ne touche pas seulement la France. Mais vous avez également raison de rappeler que la France a une conception qui lui est propre de la relation à la religion. Et je dirais même au pouvoir politique de la religion. C'est une histoire qui remonte à très loin d'ailleurs, hein, et qui de fait plonge ses racines dans l'histoire profonde de la France, c'est-à-dire cette distinction du pouvoir politique civil et du pouvoir politique religieux. C'est une distinction qui remonte presque
au roi de France.
Et dont la laïcité, d'une certaine manière, s'est nourrie. La laïcité est aussi le produit de cette histoire. Donc on a véritablement une conception de la laïcité qui est, d'aucuns la qualifieront de très sourcilleuse, mais en tout cas qui est profondément ancrée et qui explique vraisemblablement que la France peut apparaître parfois comme un des pays de la première ligne de ce combat. Alors, bien évidemment, ensuite, il y a le contexte récent, puisque quand même, on a depuis maintenant 2015 une série d'attentats à la fois massifs pour certains d'entre eux, quand il s'agit bien évidemment de l'attentat contre Charlie Hebdo, de l'attentat
du 13 novembre,
ou de l'attentat de Nice, et puis des répétitions sismiques moindres, si je puis dire, de d'actes individuels sont des actes d'ordre terroriste qui font que la France est particulièrement aussi marquée par, disons, cette offensive. Est-ce que aujourd'hui, alors il y a un autre aspect aussi dans l'histoire de France, c'est quand même, alors on n'est pas les seuls bien évidemment à avoir été puissance coloniale, mais on a tout un héritage colonial sur lequel, je veux dire, on a vraisemblablement pas encore tous autant les uns que les autres, fait l'expertise, si je puis dire, qui pèse aussi dans notre relation vis-à-vis des adversaires de la République. Donc, il y a tout un climat historique, tout un contexte historique, toute une histoire profonde et plus récente qui explique récemment le fait qu'en France, cette situation, cette crise prend une acuité peut-être plus importante, et surtout qui fait que en France, il n'y a vraisemblablement pas aujourd'hui de possibilité, en tout cas on le voit encore une fois à l'épreuve que nous venons de traverser, de concorde nationale. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue, se heurte vraisemblablement à des données qui sont des données structurelles, que n'importe quel autre président de la République dans sa situation vraisemblablement rencontrerait, qui font que la tâche est très complexe et très difficile.
Alors, c'est vrai que revenons au débat franco-français et à ces lignes de fracture. Est-ce que, quand on voit aujourd'hui que le ton monte, qu'il y a des doigts qui sont pointés, on essaye de chercher des responsables, des complices de cet islamisme radical. Est-ce que finalement c'est pas donner un point aux djihadistes et aux islamistes que de rentrer dans des conflits très forts et très durs entre Français et d'aggraver finalement les fractures du pays? Est-ce que c'est pas donner raison aux djihadistes qui finalement tentent de provoquer des relents de guerre civile entre Français et en particulier de séparer eh bien les musulmans qui pour leur immense majorité condamnent ces attentats et sont des adversaires de l'islamisme et du djihadisme, mais que parfois eh bien il y a des confusions qui mènent à effectivement jeter le trouble sur l'unité nationale, sur notre unité nationale.
Alors, il y a quand même une réalité politique immédiate, c'est que la divergence d'appréciation de la situation, elle vient de l'intérieur même de la majorité, de l'intérieur même du gouvernement. Parce que vous avez un discours qui se veut un discours rassembleur du côté du président de la République, même si quand même il faut noter, et ça c'est un point très important,
une inflexion
très nette entre le discours que tenait le candidat Emmanuel Macron en 2017 et le discours qu'il peut tenir aujourd'hui en tant que président de la République après plus de 3 ans et demi de mandat sur ce sujet. Mais c'est son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, le premier, de fait, a pointé le rôle qu'il juge en tout cas actif, ou en tout cas, disons d'une certaine manière, influent d'un certain nombre d'organisations dans le développement d'une idéologie islamiste, en tout cas dans la complaisance au développement de cette idéologie. Donc c'est à l'intérieur même de la majorité déjà que les fractures, ou en tout cas les divergences, ou en tout cas les lectures différentes sont apparues. C'est un point quand même qu'il faut signaler. C'est un point qui démontre aussi qu'à l'intérieur de cette majorité, sur cette question-là, il n'y a pas vraisemblablement d'homogénéité. Moi, je considère depuis très longtemps que en même temps, sur ce type de sujet, a beaucoup plus de difficultés à opérer que sur les sujets économiques ou sociaux, où là, la majorité d'Emmanuel Macron arrive, bon nom mal an, à trouver des points de consensus et des points d'accord qui lui permettent, en tout cas, de fonctionner. Sur des questions de ce type, qui sont des questions d'ordre sociétal, culturel, appelons-les comme on veut, voire civilisationnel, il y a, disons là, dans le composé de cette majorité, des ferments qui sont des ferments qui vont à l'encontre même du discours rassembleur que veut porter le président de la République. Et il est inévitable qu'à partir de là, il y ait des répliques sur l'ensemble du champ politique et sur l'ensemble de l'espace public français. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui relève, j'allais dire, presque du fonctionnement endogène de cette majorité et du fonctionnement endogène du gouvernement.
Alors, vous l'avez dit, hein, le gouvernement ne parle pas toujours d'une même voix sur ces sujets, mais c'est vrai aussi que depuis quelques jours, c'est pas forcément dans le gouvernement qu'on entend des choses les plus fortes, ou en tout cas les plus radicales. On a entendu Alain Finkielkraut ici, des tribunes aussi qui réclament plus ou moins la destitution de Jean-Louis Bianco et le remplacement de l'Observatoire de la laïcité par quelque chose qui devrait être plus offensif et moins dans la médiation ou le dialogue. Et puis il y a les noms, il y a les injures qui fusent, le collabo islamo-gauchiste, la France insoumise et d'autres sont un petit peu dans la tempête médiatique et se défendent de toute concession à l'islamisme. Comment est-ce qu'on peut analyser cette séquence où on a l'impression quand même qu'on est monté d'un cran dans le vocabulaire et dans le niveau, on va dire, de tension?
La répétition aussi, la répétition d'un certain nombre d'actes sur le terrain qui en viennent à ébranler la possibilité d'une synthèse nationale sur le sujet. On a eu là en quelques jours une tentative d'attentat contre les anciens locaux de Charlie Hebdo, puis cet acte horrible perpétré contre un professeur d'histoire qui vraisemblablement effrite les conditions de possibilité d'un consensus national. Disons, il y a les faits aussi qui viennent d'une certaine manière rendre difficile aujourd'hui une possibilité de synthèse. Je crois que c'est un aspect qu'il faut vraisemblablement prendre en compte. Après, il y a depuis maintenant un certain nombre d'années aussi une pression réelle de l'opinion publique qui, on le voit, hein, étude après étude, semble durcir. Alors, après, on peut le regretter, mais c'est une réalité, disons, durcir son positionnement par rapport à la question, notamment, de la relation entre le religieux et le politique. Donc là, je crois qu'il y a un double phénomène, hein. Il y a un phénomène qui est un phénomène immédiat, celui de l'actualité immédiate, et puis un phénomène qui est lié aux logiques d'opinion publique qui pèsent fortement sur le comportement des acteurs, qu'il s'agisse des acteurs intellectuels ou des acteurs politiques. Quant aux positions d'un certain nombre d'intellectuels sur ce sujet, elles ne sont pas nouvelles. Hein.
Non, c'est vrai.
Elles n'ont finalement, je veux dire, pas connu une véritable accélération suite à cet événement tragique. Elles ne sont que la confirmation des opinions de Monsieur Finkielkraut ou de Monsieur Onfray ou de Monsieur Zemmour, même s'ils s'expriment d'une manière différente. Mais en l'occurrence, moi je crois qu'il y a très souvent, plutôt que de chercher des logiques de rupture dans l'immédiat, il y a, je le crains, des logiques de continuité. Sauf que ces logiques de continuité, elles apparaissent plus saillantes du fait de l'actualité.
Et est-ce que finalement on n'est pas en train de s'accoutumer à cette forme d'hystérisation permanente du débat et à des prises de position de plus en plus radicales de part et d'autre, hein. Il y a aussi des courants, on va dire, indigénistes. Il y a eu des tentatives, effectivement, d'introduire des théories à l'université. Ça peut arriver. C'est pas forcément, c'est plutôt marginal. Mais bon, on a l'impression que finalement, on a des loupes grossissantes aujourd'hui dans les médias sur des positions peut-être les plus radicales de chaque côté, des identitaires, des anticolonialistes de l'autre. Et puis, au milieu de tout ça, les Français sont un peu pris en otage et ballottés par des débats dans lesquels ils ne se reconnaissent pas forcément, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'on vit de plus en plus à l'heure du clash, fondamentalement. C'est-à-dire avec un écosystème aussi médiatique qui, à travers les réseaux sociaux, bon, parfois aussi les chaînes d'infos en continu, se nourrit de prises de position très clivantes, très tranchées, où on n'exprime plus que des émotions et des opinions, plutôt que d'essayer...
Des analyses rationnelles, et un peu froides.
Une analyse rationnelle, une analyse en distance, une analyse en perspective historique. Disons que la logique argumentative, qui est la logique qui devrait nourrir l'espace public, est une logique qui est aujourd'hui de plus en plus mise à mal par, finalement, les propriétés qui sont caractéristiques d'un écosystème médiatique qui vraisemblablement préfère avoir des clivages bien visibles plutôt qu'avoir des analyses qui soient fondées sur la rigueur et la démonstration. Il y a aussi cette tendance contemporaine qui ne permet pas de réunir, disons, les conditions les plus sereines pour un débat public. Et il est évident que les logiques les plus extrémistes trouvent là matière à s'exprimer dans ce nouvel écosystème médiatique.
Eh bien, merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. On a essayé, nous, d'avoir une analyse et un peu de recul sur la séquence politique que nous vivons, sur les débats qui traversent la société française aujourd'hui. Donc merci à Belir Gnabli qui était invité dans la première partie de l'émission. Merci Arnaud Benedetti. Et on se retrouve la semaine prochaine dans l'émission « Et si on en parlait » sur Radio Orient. À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.